Le Labi par Jean-Marie Leclésio, cassette unique, deuxième face, page 43. Elle avait envie de faire du feu. Elle chercha dans les rochers un endroit où le vent ne soufflerait pas trop fort. Un peu plus loin, elle trouva la petite crique avec l'embarcadère en ruine et c'est là qu'elle s'installa. C'était un bon endroit pour faire du feu. Les rochers blancs entouraient l'embarcadère et les rafales de vent n'arriveraient pas jusque-là. À la base du rocher, il y avait un creux bien sec et chaud, et tout de suite les flammes s'élevèrent, légères, pâles, avec un froissement doux. Le Labi donnait sans cesse de nouvelles feuilles de papier. Elles s'allumaient d'un seul coup parce qu'elles étaient très sèches et minces, et elles se consumaient vite. C'était bien de voir les pages bleues se tordre dans les flammes et les mots s'enfuir comme à reculons, on ne sait où. Le Labi pensait que son père aurait bien aimé être là pour voir brûler ses lettres, parce qu'il n'écrivait pas des mots pour que ça reste. Il le lui avait dit un jour sur la plage, et il avait mis une lettre dans une vieille bouteille bleue pour la jeter très loin dans la mer. Il avait écrit les mots seulement pour elle, pour qu'elle les lise et qu'elle entende le bruit de sa voix. Et maintenant, les mots pouvaient retourner vers l'endroit d'où ils étaient venus, comme cela, vite, en lumière et fumée, dans l'air, et devenir invisibles. Peut-être que quelqu'un de l'autre côté de la mer verrait la petite fumée et la flamme qui brillait comme un miroir, et il comprendrait. Le Labi alimenta le feu avec de petits bouts de bois, des brindilles, des algues sèches pour faire durer les flammes. Il y avait toutes sortes d'odeurs qui fuyaient dans l'air. L'odeur légère et un peu sucrée du papier avion, l'odeur forte du carton et du bois, la fumée lourde des algues. Le Labi regardait les mots qui partaient vite, si vite qu'ils traversaient la pensée comme des éclairs. De temps en temps, elle les reconnaissait au passage, ou bien déformés et bizarres, tordus par le feu, et elle riait un peu. Pluie, navre, élan. Tout à coup, elle sentit une présence derrière elle et se retourna. C'était le petit garçon à lunettes qui la regardait, debout sur un rocher au-dessus d'elle. Il avait toujours sa gaule à la main et ses chaussures nouées autour de son cou. « Pourquoi vous brûlez des papiers ? » demanda-t-il. Le Labi lui sourit. « Parce que c'est amusant, » dit-elle. « Regarde !» Elle mit le feu à une grande page bleue sur laquelle était dessiné un arbre. « Ça brûle bien !» dit le petit garçon. « Tu vois, elles avaient très envie de brûler, » expliqua le Labi. « Elles attendaient ça depuis longtemps. Elles étaient sèches comme des feuilles mortes. C'est pour ça qu'elles brûlent si bien. » Le petit garçon à lunettes déposa sa gaule et il alla chercher des brindilles pour le feu. Ils s'amusèrent un bon moment à brûler tout ce qu'ils pouvaient. Les mains de Le Labi étaient noircies par la fumée et ses yeux piquaient. Tous les deux, ils étaient bien fatigués et essoufflés d'avoir servi le feu. Maintenant, le feu semblait un peu fatigué, lui aussi. Ses flammes étaient plus courtes et les brindilles et les papiers s'éteignaient les uns après les autres. « Le feu va s'éteindre, » dit le petit garçon en essuyant ses lunettes. « C'est parce qu'il n'y a plus de lettres, c'était ça qu'il voulait. » Le petit garçon sortit de sa poche une feuille de papier pliée en quatre. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda le Labi. Elle prit la feuille et l'ouvrit. C'était un dessin qui représentait une femme au visage noir. Le Labi reconnut son chandail vert. « C'est mon dessin ? » ?»« Je l'ai fait pour vous, » dit le petit garçon, « mais on peut le brûler. » Mais le Labi replia le dessin et regarda le feu s'éteindre. « Vous ne voulez pas le brûler maintenant ?» demanda le petit garçon. « Non, pas aujourd'hui, » dit le Labi. Après le feu, c'était la fumée qui s'éteignait. Le vent soufflait sur les cendres. « Je le brûlerai quand je l'aimerai beaucoup, » dit le Labi. Ils restèrent longtemps assis sur l'embarcadère, à regarder la mer, presque sans parler. Le vent passait sur la mer, en soulevant les gouttes d'embrun qui piquaient leur visage. C'était comme d'être assis à la proue d'un bateau au large. On n'entendait rien d'autre que le bruit des vagues et le sifflement allongé du vent. Quand le soleil fut à sa place de midi, le petit garçon à lunettes se leva et ramassa sa gaule et ses chaussures. « Je m'en vais, » dit-il. « Tu ne veux pas rester ?»« Je ne peux pas, je dois rentrer. » Le Labi se leva elle aussi. « Vous allez rester ici ?» demanda le petit garçon. « Non, je vais voir par là, plus loin. » Elle montra les rochers au bout du cap. « Là-bas, il y a une autre maison, mais elle est beaucoup plus grande. On dirait un théâtre, » le petit garçon expliquait à le Labi. « Il faut escalader les rochers, puis on peut entrer par en bas. »« Tu y es déjà allé ?»« Oui, souvent. C'est beau, mais c'est difficile pour y arriver. » Le petit garçon à lunettes mit les chaussures autour de son cou et s'éloigna vite. « Au revoir, » dit le Labi. « Salut, » dit le petit garçon. Le Labi marcha vers la pointe du cap. Elle courait presque, sautant d'un rocher à l'autre. Il n'y avait plus de chemin par ici. Il fallait escalader les rochers en s'agrippant aux racines de bruyère et aux herbes. On était loin, perdu au milieu des pierres blanches, suspendu entre le ciel et la mer. Malgré le froid du vent, le Labi sentait la brûlure du soleil. Elle transpirait sous ses habits. Son sac la gênait et elle décida de le cacher quelque part pour le reprendre plus tard. Elle l'enfouit dans un creux de terre au pied d'un gros aloès. Elle ferma la cachette en poussant deux ou trois cailloux. Au-dessus d'elle, maintenant, il y avait l'étrange maison en ciment dont avait parlé le petit garçon. Pour y arriver, il fallait monter le long d'un éboulis. La ruine blanche brillait dans la lumière du soleil. Le Labi hésita un instant, parce que tout était tellement étrange et silencieux dans cet endroit. Au-dessus de la mer, accrochés à la paroi rocheuse, les longs murs de ciment n'avaient pas de fenêtres. Un oiseau de mer fit des cercles au-dessus de la ruine, et le Labi eut soudain très envie d'être là-haut. Elle commença à grimper le long de l'éboulis. Les arêtes des cailloux écorchaient ses mains et ses genoux, et de petites avalanches glissaient derrière elle. Quand elle arriva tout en haut, elle se retourna pour regarder la mer et elle dut fermer les yeux pour ne pas sentir le vertige. Au-dessous d'elle, si loin qu'on regarda, il n'y avait que cela, la mer. Immense, bleue, la mer emplissait l'espace jusqu'à l'horizon agrandi et c'était comme un toit sans fin, un dôme géant fait de métal sombre, où bougeaient toutes les rides des vagues. Par endroits, le soleil s'allumait sur elle et le Labi voyait des taches et les chemins obscurs des courants, les forêts d'algues, les traces de l'écume. Le vent balayait sans arrêt la mer, lissait sa surface. Le Labi ouvrit les yeux et regarda tout en s'accrochant au rocher avec ses ongles. La mer était si belle qu'il lui semblait qu'elle traversait sa tête et son corps à toute vitesse, qu'elle bousculait des milliers de pensées à la fois. Lentement, avec précaution, le Labi s'approcha de la ruine. C'était bien ce qu'avait dit le petit garçon à lunettes, une sorte de théâtre fait de grands murs de ciment armé. Entre les hauts murs, la végétation poussait, des ronces et des lianes, qui recouvrait complètement le sol. Sur les murs, il y avait un toit de dalles de béton, effondré par endroits. Le vent de la mer s'engouffrait par les ouvertures de chaque côté de l'édifice, avec des rafales brutales qui mettaient en mouvement les morceaux de fer de l'armature du toit. Les lames s'entrechoquaient en faisant une musique étrange, et le Labi resta immobile pour l'écouter. C'était comme les cris des sternes et comme le murmure des vagues, une drôle de musique irréelle et sans rythme qui vous faisait frissonner. Le Labi se remit en marche. Le long du mur extérieur, il y avait un chemin étroit qui franchissait la broussaille et qui conduisait jusqu'à un escalier à moitié démoli. Le Labi monta les marches de l'escalier et elle arriva jusqu'à une plateforme sous le toit d'où on voyait la mer par une brèche. C'est là que le Labi s'assit, tout à fait en face de l'horizon, au soleil. Et elle regarda encore la mer. puis elle ferma les yeux. Tout à coup, elle tressaillit parce qu'elle avait senti que quelqu'un arrivait. Il n'y avait pas d'autre bruit que le vent agitant les lames de fer du toit, et pourtant elle avait senti le danger. À l'autre bout de la ruine, sur le chemin au milieu des ronces, quelqu'un arrivait en effet. C'était un homme vêtu d'un pantalon de toile bleue et d'un blouson, au visage noirci par le soleil, aux cheveux hirsutes. Il marchait sans faire de bruit, en s'arrêtant de temps en temps comme s'il cherchait quelque chose. Le Labi resta immobile contre le mur, le cœur battant, espérant qu'il ne l'avait pas vu. Sans comprendre bien pourquoi, elle savait que l'homme la cherchait, et elle retint sa respiration pour qu'il ne l'entendît pas. Mais quand l'homme fut à la moitié du chemin, il releva la tête tranquillement et il regarda la jeune fille. Ses yeux verts brillaient bizarrement dans son visage sombre. Puis, sans se presser, il recommença à marcher vers l'escalier. C'était trop tard pour redescendre. D'un bond, le Labi sortit par la brèche et grimpa sur le toit. Le vent soufflait si fort qu'elle faillit tomber. Aussi vite qu'elle put, elle se mit à courir vers l'autre bout du toit et elle entendit le bruit de ses pieds qui résonnait dans la grande salle en ruine. Son cœur cognait très fort dans sa poitrine. Quand elle arriva au bout du toit, elle s'arrêta. Devant elle, il y avait un grand fossé qui la séparait de la paroi de la falaise. Elle écouta autour d'elle. Il n'y avait toujours que le bruit du vent dans les lames de fer du toit, mais elle savait que l'inconnu n'était pas loin. Il courait sur le chemin au milieu des ronces pour faire le tour de la ruine et la prendre à revers. Alors le Labi sauta. En tombant sur la pente de la falaise, sa cheville gauche se tordit et elle sentit une douleur. Elle cria seulement « Ah !» L'homme surgit devant elle sans qu'elle puisse comprendre d'où il sortait. Ses mains étaient griffées par les ronces et il soufflait un peu. Il resta immobile devant elle, ses yeux verts durcis comme de petits morceaux de verre. Était-ce lui qui avait écrit les messages à la craie sur les rochers tout le long du chemin ? Ou bien il était entré dans la belle maison grecque et il avait sali les murs avec toutes ces inscriptions obscènes? Il était si près de le Labi qu'elle sentait son odeur. Une odeur fade et aigre de sueur qui avait imprégné ses habits et ses cheveux. Tout à coup, il fit un pas en avant, la bouche ouverte, les yeux un peu rétrécis. Malgré la douleur dans sa cheville, le Labi bondit et commença à dévaler la pente au milieu d'une avalanche de cailloux. Quand elle arriva au bas de la falaise, elle s'arrêta et se retournait. Devant les murs blancs de la ruine, l'homme était resté debout, les bras écartés, comme en équilibre. Le soleil frappait fort sur la mer et grâce au vent froid, le Labi sentit que ses forces revenaient. Elle sentit aussi le dégoût et la colère qui remplaçaient peu à peu la crainte. Puis soudain, elle comprit que rien ne pourrait lui arriver, jamais. C'était le vent, la mer, le soleil. Elle se souvint de ce que son père lui avait dit un jour, à propos du vent, de la mer, du soleil. Une longue phrase qui parlait de liberté, d'espace, quelque chose comme cela. Le Labi s'arrêta sur un rocher en forme d'étrave au-dessus de la mer, et elle renversa sa tête en arrière pour mieux sentir la chaleur de la lumière sur son front, et sur ses paupières. C'était son père qui lui avait appris à faire cela pour retrouver ses forces. Il appelait cela « boire le soleil ». Le Labi regarda la mer qui se balançait sous elle, qui cognait la base du roc en faisant ses remous et ses nuées de bulles filantes. Elle se laissa tomber la tête la première et elle entra dans la vague. L'eau froide l'enveloppa en pressant sur ses tympans et sur ses narines, et elle vit dans ses yeux une lueur éblouissante. Quand elle remonta à la surface, elle secoua ses cheveux et elle poussa un cri. Loin derrière elle, pareil à un immense cargo gris, la terre oscillait, chargée de pierres et de plantes. Au sommet, la maison blanche en ruine ressemblait à une passerelle ouverte sur le ciel. Le Labi se laissa porter un instant dans le mouvement lent des vagues, et ses habits collèrent à sa peau comme des algues. Puis elle commença à nager un crawl très long, vers le large, jusqu'à ce que le cap s'écarte et laisse voir au loin, à peine visible dans la brume de chaleur, la ligne pâle des immeubles de la ville. Chapitre 3. Ça ne pouvait pas durer toujours. Le Labi le savait bien. D'abord, il y avait tous ces gens à l'école et dans la rue. Ils racontaient des choses, ils parlaient trop. Il y avait même des filles qui arrêtaient le Labi pour lui dire qu'elle exagérait un peu, que la directrice et tout le monde savaient bien qu'elle n'était pas malade. Et puis, il y avait ces lettres qui demandaient des explications. Le Labi avait ouvert les lettres et elle avait répondu en signant du nom de sa mère. Elle avait même téléphoné un jour au bureau du censeur en contrefaisant sa voix pour expliquer que sa fille était malade, très malade, et qu'elle ne pouvait pas reprendre les cours. Mais ça ne pouvait pas durer, pensait le Labi. Ensuite, il y avait M. Philippi qui avait écrit une lettre, pas très longue, une lettre bizarre pour lui demander de revenir. Le Labi avait mis la lettre dans la poche de son blouson et elle la portait toujours sur elle. Elle aurait bien voulu répondre à M. Philippi pour lui expliquer, mais elle avait peur que la directrice ne lût la lettre et qu'elle ne sût que le Labi n'était pas malade mais qu'elle se promenait. Le matin, il faisait un temps extraordinaire quand le Labi sortit de l'appartement. Sa mère dormait encore à cause des pilules qu'elle prenait chaque soir depuis son accident. Le Labi entra dans la rue, elle fut éblouie par la lumière. Le ciel était presque blanc. La mer étincelait. Comme les autres jours, le Labi prit le chemin des contrebandiers. Les rochers blancs semblaient des icebergs debout sur l'eau. Un peu penché en avant contre le vent, le Labi marcha un moment le long de la côte. Mais elle n'osait plus aller jusqu'à la plateforme de ciment de l'autre côté du bunker. Elle aurait bien voulu revoir la belle maison grecque aux 6 colonnes pour s'asseoir et se laisser emporter jusqu'au centre de la mer. Mais elle avait peur de rencontrer l'homme aux cheveux hirsutes qui écrivait sur les murs et sur les rochers. Alors elle s'assit sur une pierre au bord du chemin et elle essaya d'imaginer la maison. Elle était toute petite et blottie contre la falaise, ses volets et sa porte fermées. Peut-être que désormais, plus personne n'y entrerait. Au-dessus des colonnes, sur le chapiteau triangulaire, son nom était éclairé par le soleil. Il disait toujours « charisma », car c'était le mot le plus beau du monde. Appuyé contre le rocher, le Labi regarda encore une fois, très longtemps, la mer, comme si elle ne devait pas la revoir. Jusqu'à l'horizon, les vagues serrées bougeaient. La lumière scintillait sur leurs crêtes comme du verre pilé. Le vent salé soufflait. La mer mugissait entre les pointes des rochers, les branches des arbustes sifflaient. Le Labi se laissa gagner encore une fois par l'ivresse étrange de la mer et du ciel vide. Puis, vers midi, elle tourna le dos à la mer et elle rejoignit en courant la route qui conduisait vers le centre-ville. Dans les rues, le vent n'était pas le même. Il tournait sur lui-même, il passait en rafales qui claquaient les volets et soulevaient des nuages de poussière. Les gens n'aimaient pas le vent. Ils traversaient les rues en hâte, s'abritaient dans les coins des murs. Le vent et la sécheresse avaient tout chargé d'électricité. Les hommes sautillaient nerveusement, s'interpellaient, se heurtaient et quelquefois, sur la chaussée noire, deux autos s'emboutissaient en faisant de grands bruits de ferraille et de klaxons coincés. Le Labi marchait dans les rues à grandes enjambées, les yeux à moitié fermés à cause de la poussière. Quand elle arriva au centre-ville, sa tête tournait comme prise par le vertige. La foule allait et venait, tourbillonnait comme les feuilles mortes. Les groupes d'hommes et de femmes s'aggloméraient, se dispersaient, se reformaient plus loin, comme la limaille de fer dans un champ magnétique. Où allait-il? Que voulait-il? Il y avait si longtemps que le Labi n'avait vu tant de visages, d'yeux, de mains, qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Le mouvement lent de la foule le long des trottoirs la prenait, la poussait en avant, sans qu'elle sût où elle allait. Les gens passaient tout près d'elle et elle sentait leur haleine, le frôlement de leurs mains. Un homme se pencha contre son visage et murmura quelque chose, mais c'était comme s'il parlait dans une langue inconnue. Sans même s'en rendre compte, le Labi entra dans un grand magasin, plein de lumière et de bruit. C'était comme si le vent soufflait aussi à l'intérieur, le long des allées, dans les escaliers, en faisant tournoyer les grandes pancartes. Les poignées des portes envoyaient des décharges électriques, les barres de néon luisaient comme des éclairs pâles. Le Labi chercha la sortie du magasin presque en courant. Quand elle passa devant la porte, elle heurta quelqu'un et elle murmura « Pardon, madame, mais c'était seulement un grand mannequin de matière plastique, vêtu d'une cape de l'Oden vert. » Les bras écartés du mannequin vibraient un peu et son visage pointu, couleur de cire, ressemblait à celui de la directrice. À cause du choc, la perruque noire du mannequin avait glissé de travers et tombé sur son œil, aux cils pareils à des pattes d'insectes, et le Labi se mit à rire et à frissonner en même temps. Elle se sentait très fatiguée maintenant, vide. C'était peut-être parce qu'elle n'avait rien mangé depuis la veille, et elle entra dans un café. Elle s'assit au fond de la salle, là où il y avait un peu d'ombre. Le garçon de café était debout devant elle. « Je voudrais une omelette, » dit le Labi. Le garçon la regarda un instant, comme s'il ne comprenait pas. Puis il cria vers le comptoir, « Une omelette pour la demoiselle !» Il continua à la regarder. Le Labi prit une feuille de papier dans la poche de son blouson et essaya d'écrire. Elle voulait écrire une longue lettre, mais elle ne savait pas à qui l'envoyer. Elle voulait écrire à la fois à son père, à Sœur Laurence, à M. Philippi et au petit garçon à lunettes pour le remercier de son dessin. Mais ça n'allait pas. Alors elle froissa la feuille de papier et en prit une autre. Elle commença. « Madame la directrice, veuillez excuser ma fille de ne pouvoir reprendre les cours actuellement, car son état de santé demande... » Elle s'arrêta encore. « Demande quoi ?» Elle n'arrivait pas à penser à quoi que ce soit. « L'omelette de la demoiselle, » dit la voix du garçon de café. Il posait l'assiette sur la table et regardait le Labi d'un air bizarre. Le Labi froissa la deuxième feuille de papier et elle commença à manger l'omelette sans relever la tête. La nourriture chaude lui fit du bien et elle put se lever bientôt et marcher. Quand elle arriva devant la porte du lycée, elle hésita quelques secondes. Elle entra. La rumeur des voix d'enfants l'enveloppa d'un seul coup. Elle reconnut tout de suite chaque marronnier, chaque platane. Leurs branches maigres étaient agitées par les bourrasques et leurs feuilles tournoyaient dans la cour. Elle reconnut aussi chaque brique, chaque banc de matière plastique bleue, chacune des fenêtres en verre dépoli. Pour éviter les enfants qui couraient, elle alla s'asseoir sur un banc au fond de la cour. Elle attendit. Personne ne semblait faire attention à elle. Puis la rumeur décrut. Les groupes d'élèves entraient dans les salles de classe, les portes se fermaient les unes après les autres. Bientôt, il ne resta plus que les arbres secoués par le vent et la poussière et les feuilles mortes qui dansaient en rond au milieu de la cour. Le Labi avait froid. Elle se leva et se mit à chercher M. Philippi. Elle ouvrit les portes du bâtiment frais fabriqué, là où il y avait les laboratoires. Chaque fois, elle surprenait une phrase qui restait suspendue dans l'air, puis qui repartait quand elle refermait la porte. Le Labi traversa à nouveau la cour et elle frappa à la porte vitrée du concierge. « Je voudrais voir M. Philippi, » dit-elle. L'homme la regarda avec étonnement. « Il n'est pas encore arrivé, » dit-il. Il réfléchit un peu. « Mais je crois que la directrice vous cherche. Venez avec moi. » Le Labi suivit docilement le concierge. Il s'arrêta devant une porte vernie et il frappa. Puis il ouvrit la porte et fit signe à le Labi d'entrer. Derrière son bureau, la directrice la regarda avec des yeux perçants. Entrez et asseyez-vous, je vous écoute. » Le Labi s'assit sur la chaise et regarda le bureau ciré. Le silence était si menaçant qu'elle voulut dire quelque chose. « Je voudrais voir M. Philippi, » dit-elle. « Il m'a écrit une lettre. » La directrice l'interrompit. Sa voix était froide et dure comme son regard. « Je sais, il vous a écrit, moi aussi. Mais il ne s'agit pas de ça, mais de vous. Où étiez-vous? Vous avez sûrement des choses intéressantes à me raconter. Alors je vous écoute, mademoiselle. » Le Labi évita son regard. « Ma mère, » commença-t-elle, la directrice cria presque. « Votre mère sera mise au courant de tout ceci plus tard, et votre père aussi, naturellement. » Elle montra une feuille de papier que le Labi reconnut aussitôt. « Et de cette lettre, qui est un faux !» Le Labi ne nia pas. Elle ne s'étonna même pas. « Je vous écoute, » répéta la directrice. L'indifférence de le Labi semblait la mettre peu à peu hors d'elle. C'était peut-être aussi la faute du vent qui avait rendu tout électrique. « Où étiez-vous pendant tout ce temps ?» Le Labi parla. Elle parla lentement, en cherchant un peu ses mots parce qu'elle n'avait plus tellement l'habitude maintenant. Et tandis qu'elle parlait, elle voyait devant elle, à la place de la directrice, la maison à colonnes blanches, les rochers et le beau nom grec qui brillait dans le soleil. C'était tout cela qu'elle essayait de raconter à la directrice. La mer bleue avec les reflets comme des diamants, le bruit profond des vagues, l'horizon comme un fil noir, le vent salé où planent les sternes. La directrice écoutait, et son visage prit pendant un instant une expression de stupéfaction intense. Ainsi, elle ressemblait tout à fait au mannequin avec sa perruque noire de travers, et le Labi dut faire des efforts pour ne pas sourire. Quand elle s'arrêta de parler, il y eut quelques secondes de silence. Puis le visage de la directrice changea encore, comme si elle cherchait sa voix. Le Labi fut étonné d'entendre son timbre. Ce n'était plus du tout la même voix, c'était devenu plus grave et plus doux. « Écoutez, mon enfant, » dit la directrice. Elle se pencha sur le bureau ciré en regardant le Labi. Sa main droite tenait un stylo noir cerclé d'un fil d'or. « Mon enfant, je suis prête à oublier tout cela. Vous pourrez retourner en classe comme avant. Mais vous devez me dire... » Elle hésita. « Vous comprenez, je veux votre bien. Il faut me dire toute la vérité. » Le Labi ne répondit pas. Elle ne comprenait pas ce que voulait dire la directrice. « Vous pouvez me parler sans crainte. Tout restera entre nous. » Comme le Labi ne répondait toujours pas, la directrice dit très vite, à voix presque basse, « Vous avez un petit ami, n'est-ce pas ?» Le Labi voulut protester, mais la directrice l'empêcha de parler. « Inutile de nier. Certaines de vos camarades vous ont vu avec un garçon. »« Mais c'est faux !» dit le Labi. Elle n'avait pas crié, mais la directrice fit comme si elle avait crié, et elle dit très fort, « Je veux savoir son nom !»« Je n'ai pas de petit ami, » dit le Labi. Elle comprit tout d'un coup pourquoi le visage de la directrice avait changé. C'était parce qu'elle mentait. Alors elle sentit son propre visage qui devenait comme une pierre, froid et lisse, et elle regarda la directrice droit dans ses yeux parce que maintenant elle ne la craignait plus. La directrice se troubla et dut détourner son regard. Elle dit d'abord avec une voix douce, presque tendre, « Il faut me dire la vérité, mon enfant, c'est pour votre bien. » Puis son timbre redevint dur et méchant. « Je veux savoir le nom de ce garçon. » Le Labi sentait la colère grandir en elle. C'était très froid et très lourd comme la pierre, et cela s'installait dans ses poumons, dans sa gorge. Son cœur se mit à battre très vite, comme lorsqu'elle avait vu les phrases obscènes sur les murs de la maison grecque. Je ne connais pas de garçon. C'est faux !» cria-t-elle. Et elle voulut se lever pour s'en aller. Mais la directrice fit un geste pour la retenir. « Restez, ne partez pas. » Sa voix était à nouveau plus basse, un peu cassée. « Je ne dis pas cela pour vous. C'est pour votre bien, mon enfant. C'est seulement pour vous aider. Il faut que vous compreniez, je veux dire... » Elle lâcha le petit stylo noir à bout doré et elle joignit nerveusement ses mains maigres. Le labi se rassit et ne bougea plus. Elle respirait à peine et son visage était devenu tout à fait blanc comme un masque de pierre. Elle se sentait faible, peut-être parce qu'elle avait si peu mangé et dormi tous ces jours au bord de la mer. « C'est mon devoir de vous protéger contre les dangers de la vie, » dit la directrice. « Vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes trop jeune. » « Monsieur Philippi m'a parlé de vous en termes très élogieux. Vous êtes un bon élément et je ne voudrais pas qu'un accident vienne gâcher tout cela bêtement. » Le labi entendait sa voix très loin, comme par-dessus un mur, déformé par le mouvement du vent. Elle voulait parler, mais elle n'arrivait pas bien à bouger les lèvres. « Vous avez traversé une période difficile. » Depuis ce qui est arrivé à votre mère, son séjour à l'hôpital. Vous voyez, je suis au courant de tout cela, et cela m'aide à vous comprendre, mais il faut que vous m'aidiez, il faut que vous fassiez un effort. Je voudrais voir Monsieur Philippi, dit enfin le labi. Vous le verrez plus tard. « Vous le verrez, » dit la directrice. « Mais il faut que vous me disiez enfin la vérité où vous étiez. »« Je vous ai dit, je regardais la mer. J'étais caché dans les rochers et je regardais la mer. »« Avec qui ?»« J'étais seul, je vous l'ai dit, seul. »« C'est faux !» la directrice avait crié. Et elle s'est reprise tout de suite. « Si vous ne voulez pas me dire avec qui vous étiez, je vais être obligé d'écrire à vos parents. Votre père... » Le cœur de le labi se remit à battre très fort. « Si vous faites cela, je ne reviendrai plus jamais ici. » Elle sentit la force de ses paroles et elle répéta lentement, sans détourner les yeux. « Si vous écrivez à mon père, je ne reviendrai plus ici ni dans aucune autre école. » La directrice se tut un long moment et le silence emplit la grande salle comme un vent froid. Puis la directrice se leva. Elle regarda la jeune fille avec attention. « Il ne faut pas vous mettre dans cet état, » dit-elle enfin. « Vous êtes très pâle, vous êtes fatigué. Nous reparlerons de tout cela une autre fois. » Elle consulta sa montre. « Le cours de M. Philippi va commencer dans quelques minutes. Vous pouvez y aller. » Le labi se leva lentement. Elle marcha vers la grande porte. Elle se retourna une fois avant de sortir. « Merci, madame, » dit-elle. La cour du lycée était à nouveau remplie d'élèves. Le vent secouait les branches des platanes et des marronniers et les voix des enfants faisaient un brouhaha qui enivrait. Le labi traversa lentement la cour en évitant les groupes d'élèves et les enfants qui couraient. Quelques filles lui firent signe de loin, mais sans oser s'approcher, et le labi leur répondit par un sourire léger. Quand elle arriva devant le bâtiment préfabriqué, elle vit la silhouette de M. Philippi près du pilier B. Il était toujours vêtu de son complet bleu-gris, et il fumait une cigarette en regardant devant lui. Le labi s'arrêta. Le professeur l'aperçut et vint à sa rencontre en faisant des signes joyeux de la main. eh bien, dit-il, c'est tout ce qu'il trouvait à dire. Je voulais vous demander, commença le lobby, quoi ? Pour la mer, la lumière, j'avais beaucoup de questions à vous demander. Mais le lobby s'aperçut tout à coup qu'elle avait oublié ses questions. Monsieur Philippi la regarda d'un air amusé. « Vous avez fait un voyage » demanda-t-il. « Oui, » dit le labi. « Et c'était bien ?»« Oh oui, c'était très bien. » La sonnerie redentit au-dessus de la cour, dans les galeries. « Je suis bien content, » dit Monsieur Philippi. Il éteignit sa cigarette sous son talon. « Vous me raconterez tout cela plus tard, » dit-il. La lueur amusée brillait dans ses yeux bleus derrière ses lunettes. « Vous n'allez plus partir en voyage maintenant ?»« Non, » dit le lobby. « Bon, il faut y aller, » dit M. Philippi. Il répéta encore, « Je suis bien content. » Il se tourna vers la jeune fille avant d'entrer dans le bâtiment préfabriqué. « Et vous me demanderez ce que vous voudrez tout à l'heure après le cours. J'aime beaucoup la mer, moi aussi. Je voudrais te dire maintenant deux mots sur Jean-Marie Leclésio. Il est né à Nice le 13 avril 1940 d'un père anglais et d'une mère française. Il fait des études de lettres, puis travaille dans les deux universités anglaises de Bristol et de Londres. À 23 ans, il écrit son premier roman, Le procès-verbal, qui obtient le prix Renaudot, R-E-N-A-U-D-O-T. C'est un prix littéraire, décerné par des journalistes. Il accomplit son service militaire en Thaïlande, THAILANDE, en qualité de coopérant, et voyage au Mexique où il demeure quelque temps auprès des Indiens. Cette expérience impressionne fortement son œuvre. Il est reconnu comme un des écrivains les plus importants de sa génération. Fin de la deuxième piste de cette cassette unique, page 72. Le Labi de Jean-Marie Leclésio. Laisse la cassette se dérouler jusqu'à la fin. Merci. À une autre fois. Elle commence vraiment au début et pas au... dans... Oh,